Bienvenue au séminaire de la chaire Éthique et Finance et de la chaire éponyme de Kedge, séminaire POCFIN, qui veut dire, pour ceux qui ne le savent pas, Post-Crisis Finance Network, réseau de recherche, de réflexion pour la mise en place d'une nouvelle finance d'après la crise. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à une refondation de la finance, à des principes sur lesquels reposent les pratiques financières pour assurer à cette finance une durabilité et une plus grande sensibilité aux notions de bien commun. Donc voilà le séminaire de la chaire Éthique et Finance que vous connaissiez sous son ancienne forme, renaît sous une nouvelle forme qui est la forme POCFIN avec l'école de commerce Kedge, maintenant associée à la FMSH via nos deux chaires respectives. Et ces deux séminaires alternent les séances à Paris et à Marseille, et au cours desquelles on reprend de manière classique l'invitation d'un chercheur qui vient présenter un travail en cours sur ces questions. Voilà, en plus, on inaugure la nouvelle salle de la MSH avec la diffusion en direct par live du séminaire. Vous pourrez retrouver en vidéo sur le site de la FMSH avec l'adresse qui a été indiquée dans le lien de l'invitation. Voilà. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui, nous avons le plaisir avec Emmanuel Picavé, c'est aussi l'autre innovation, c'est que nous sommes maintenant deux titulaires, on s'est dit un c'est pas assez, il en faut deux, de la chaire Éthique et Finance, nous sommes co-titulaires, voilà Emmanuel Picavé et moi-même. Nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Yamina Tadjedine, qui elle aussi a le privilège d'être venue à la fois à Marseille et à Paris, sur les deux sites de séminaire POCFIN, qui vient nous présenter un ouvrage collectif très important qui a été publié chez Routledge en 2018, sur la fabrique de la finance, la version anglaise d'un ouvrage antérieur publié en français deux ans plus tôt, et qui est important parce que aujourd'hui, pour aborder les questions liées à la finance post-crise et à l'impact de 2008, il est essentiel de mobiliser l'ensemble des sciences sociales pour pouvoir saisir une réalité complexe et multiple dans ses différentes dimensions. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir conjoindre des approches historiques, sociologiques, épistémologiques, pratiques, pour bien comprendre ce qui s'est passé en 2008 et éviter que ça se reproduise. Et l'ouvrage collectif, qui a été co-dirigé par Yamina, Marc Langlais, qui se trouve là-bas, et puis Isabelle Chambaud, regroupe des contributions sur la façon dont on peut aborder cette question et surtout proposer une manière différente de refonder une finance, une autre finance, en anglais « alternative finance », en français, je dirais, une autre finance. Voilà, d'où l'idée de fabrique de la finance. On regarde, on scrute comment la finance est faite et c'est mal faite pour qu'elle soit refaite et qu'elle soit bien faite. Je résume à peu près. Voilà. Donc, bienvenue à Yamina, que je remercie à nouveau de venir animer ce séminaire. Et puis, je vais maintenant lui laisser la parole, comme d'habitude, une heure d'exposé, une heure de questions-réponses. Le tout sera rediffusé après l'enregistrement vidéo et vous le trouverez donc sur le site Internet correspondant. Merci Yamina, je te passe la parole.
Merci beaucoup Christian. Et je suis ravie de venir enfin à ce séminaire parce que l'ancien séminaire m'avait toujours beaucoup intéressée, mais je pense n'être jamais venue à peut-être un et à regret, je n'avais pas pu venir aux autres. Alors c'est toujours un peu, je trouvais cavalier de ne venir qu'à la séance où on présente. Et donc j'espère pouvoir revenir à d'autres, mais bon, maintenant je suis à Nancy. Mais les fois où je passe à Paris et si vous avez un séminaire, je viendrai avec grand intérêt, d'autant plus que, eh bien, effectivement, j'avais été invitée aussi à Kedge à Marseille, et je salue l'initiative de POCFIN, et Thomas m'a associée au réseau que vous êtes en train de monter, et j'en suis tout à fait ravie. Donc, je vous propose aujourd'hui donc, de vous présenter, alors j'ai mis ça, en plus comme c'est publication internationale, comme ça je fais la promotion, vous avez vu, j'ai bien étalé les deux livres, donc je vais vous parler de ces deux livres. Pour celui-ci, on ne touche strictement rien. On a même payé pour la publication, donc il n'y a aucun intérêt marchand à le faire. Bon, je ne peux pas dire la même chose pour Routledge, puisque pour la première fois de ma vie, j'ai reçu 90 euros de la publication du livre. Donc voilà, ne vous en faites pas, je ne gagne réellement rien. C'est juste pour la gloire et pour finalement ce que Christian vient de mentionner, l'idée de finalement transmettre une expérience Et ce livre, ces deux livres, ont vraiment été faits pour ça. Et donc, mon intervention sera aussi par rapport à cette transmission. Alors, je vais commencer un petit peu vite, parce que je pense que c'est des choses que vous aviez déjà vues. Mais finalement, cet ouvrage, mais aussi, je pense, plus largement, le séminaire POCFIN, et puis la démarche initiée, que ce soit par M. Pitcavé ou par Christian Walter, eh bien, vise fondamentalement à re-questionner, recréer un paradigme qui se substituerait à celui mis en place par la finance classique et qui fondamentalement s'appuie sur deux piliers, la théorie de l'efficience et l'homo economicus. Alors, je ne vais pas détailler ici ces deux éléments puisque cela me prendrait plus de temps et je pense que le reste est plus intéressant. Mais il me semblait important de bien mentionner qu'on a deux piliers fondamentaux dans la théorie de la finance classique. La question de la rationalité économique et notamment finalement toute la modélisation proposée par Savage et Van Neumann Morgenstern sur la théorie de la rationalité en économie en situation d'incertitude ou de risque et qui se traduit derrière cela par une posture normative qu'on retrouve fréquemment en théorie économique, même s'il y a des contestations possibles dans la discipline économique et je figure parmi ces figures contestatrices de cette posture. Mais en tout cas, la traduction en finance de cette figure normative est l'existence a priori d'un seul comportement, qui est le comportement fondamentaliste et qui amène à une forme de stabilité des marchés, à savoir qu'à travers cette rationalité individuelle, il est possible de générer une stabilité des marchés. Donc c'est une construction qui est quand même très forte et qui imprègne fondamentalement non seulement la théorie financière, mais aussi un certain nombre de postures politiques qui ont fait l'efficience des marchés une forme de dogme. Alors, j'aime bien distinguer la rationalité économique de l'efficience informationnelle qui ouvre sur d'autres types de postures, et notamment, et donc là je m'inscris aussi bien dans les travaux maintenant un peu anciens de Christian, mais aussi ceux menés par Frank Jovanovic autour de la théorie de l'efficience, le paradoxe est que la théorie de l'efficience n'a jamais été liée historiquement à la rationalité économique, et c'est que très tardivement, avec les travaux notamment de Samuelson et de Lucas, que je ne mentionne pas ici, que le lien a été fait. Mais en fait, ces deux socles théoriques totalement différents, le second s'inscrivant dans une tradition de l'actuariat. C'est pour ça que l'article publié dans les annales que tu avais rédigé il y a fort longtemps, en 96, est très important parce qu'en fait, il montre comment cette théorie s'est construite indépendamment précisément de la rationalité économique. Mais il s'avère que pour beaucoup d'acteurs, les deux sont le même socle, alors qu'en fait, épistémologiquement parlant, ça ne n'a strictement rien à voir. Alors, de ces deux socles, sont nés un certain nombre de modèles qui fondent et forment l'ensemble des financiers. Et j'ai le regret, moi aussi, de participer à cette formation, même si après, souvent, je critique en ouvrant sur d'autres aspects. Mais au fond, le problème est que les postulats, aussi bien que l'on retrouve dans le CAPM, dans la formule de Black, Merton et Scholl, les postulats sont ceux de la rationalité économique, donc maximisation de l'espérance en utilité, l'espérance d'utilité. Et de l'autre côté, notamment l'hypothèse de normale mouvement brownien pour les cours. Et qui sont les deux qui proviennent des deux socles que je viens de mentionner. Et ces deux théories formatent totalement l'éducation des financiers, mais aussi dans une certaine manière l'industrie financière et la réglementation. Et c'est cela le problème, c'est qu'à la limite, si vous aviez un socle théorique qui ne restait que théorie, cela ne serait pas trop ennuyeux. Mais l'ennui est que ces théories ont eu un statut normatif et performatif des comportements financiers. Et donc finalement, nos ouvrages, c'est de dire attention, on peut fonder autrement la finance et on peut le fonder sans doute avec un socle empirique beaucoup plus conforme à ce qu'il est. et non pas eh bien, à ce qu'il est supposé idéalement dans ces modèles-là. Et donc, à partir du moment où on a dit ça, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas juste dire, tiens, les autres ne sont pas bons, mais il faut aussi envisager ce que l'on pourrait poser ou proposer de différent. Et c'est l'objet de ce mémoire, de ce livre, excusez-moi, j'ai fait des soutenances de mémoire, en fait. Donc voilà, des fois, en fait, on doit changer de statut. Donc là, j'abandonne la soutenance de mémoire pour vous parler de cet ouvrage. Mais l'idée est de proposer autre chose. C'est-à-dire qu'on a pu faire un bilan clinique, on a pu dire ce qui n'allait pas, comprendre ce qui n'allait pas, et après, il faut envisager ce que l'on pourrait faire. Et donc, ce livre-là est finalement cette synthèse, de dire, on a déconstruit, on a dévoilé, maintenant, on fait un autre pas, en disant, eh bien, finalement, concrètement, qu'est-ce que les sciences sociales de la finance peuvent apporter ? Alors, fondamentalement, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer, à travers la suite de mon exposé, c'est que les sciences sociales vont porter un regard différent sur la finance, qui ne part pas d'un postulat de rationalité normatif, ni finalement ne s'intéresser qu'à la dynamique des prix, puisque l'efficience des marchés, comme je disais que cela provenait de l'actuariat, eh bien en fait derrière, on a comme point d'entrée exclusif les séries de prix passées ou les hypothèses ou les lois que l'on peut faire sur les séries de prix. Mais finalement, ce que l'on va faire, c'est n'étudier que des prix et des moments de prix. Or, avec les sciences sociales, on va pouvoir diversifier les angles d'attaque. Et donc, c'est ce que je vais vous proposer. Et non seulement diversifier les angles d'entrée de la finance, mais aussi proposer des lectures critiques du phénomène financier. Et l'originalité des sciences sociales à ce niveau-là est leur statut inductif, de science inductive. Autrement dit, à partir du moment où vous allez observer, eh bien, avec un regard différent, hein, suivant les disciplines d'où vous venez, eh bien, vous allez pouvoir faire émerger des éléments différents et qui vont se compléter et finalement rendre compte d'une réalité qui est complexe, mais à travers des bouts différents. Donc, ce que je vous propose, c'est cette démarche-là. Autrement dit, essayez de vous exposer ce que peut apporter une lecture de sciences sociales. Alors, pour cela, je vais d'abord commencer, parce que cela me semble important, par revenir sur l'expérience épistémique qui a... Enfin, dans la production, hein, sont ces deux ouvrages. Hein, donc, l'ouvrage n'est que finalement une mise en forme d'un travail beaucoup plus long et beaucoup plus important, me semble-t-il, qui est l'expérience d'une association, Études sociales de la finance, et d'un séminaire qui est associé, qui existe depuis 1998. Donc, Christian était venu parler dans ce séminaire il y a fort longtemps. Et donc, en fait, il me semble très important de raconter cette expérience pour que d'autres la prennent et la mettent en place et finalement continuent à faire vivre cette dynamique. Ensuite, je vous exposerai dans les deuxième et troisième et quatrième parties de mon exposé, eh bien, finalement, l'avant-propos de The Making of Finance. Alors que l'avant-propos est de l'ouvrage en anglais est totalement différent de l'avant-propos en français. Et il me semble beaucoup plus abouti parce qu'en fait, il fait suite à des critiques qui nous avaient été faites sur le premier. Et donc, je vais commencer par là, sur un point qui nous avait été reproché, à savoir que nous ne décrivions pas le monde de la finance. Et on a beaucoup travaillé sur ce qui va être mon deuxième point, à savoir essayer de faire une cartographie de ce qu'est la finance. Et au fond, les sciences sociales peuvent permettre de faire ça, chose qui est plus compliquée si vous rentrez que par les prix, par exemple. Donc la deuxième temps de cet avant-propos, donc, qui sera mon troisième élément de présentation, et finalement, je reprendrai à mon compte une posture que déploie Bernard Lahire dans Le Monde pluriel et qui me semble très important, qui est la question de la diversité des échelles d'observation et qui est une spécificité des sciences sociales et que j'aimerais vous décrire et vous exposer l'utilité de cette diversité. Et enfin, un dernier élément qui provient d'un séminaire qui, je crois, était à l'EHESS de Hague et Lemieux, dans leur premier tome, critiqué sur qu'est-ce que c'est que faire des sciences sociales, eh bien, ils signalent que les sciences sociales s'inscrivent toujours dans une critique. Et finalement, la structuration de l'ouvrage reprend ces critiques. Donc, premier temps, je reviens sur cette association des études sociales de la finance qui est l'occasion pour moi d'exposer une expérience de recherche interdisciplinaire autour d'un objet précis que sont la finance. Alors, cette expérience, comme j'ai vécu cette expérience depuis le début, il m'était difficile finalement d'en parler, puisque quand on vit quelque chose, on a toujours l'impression que c'est normal et donc qu'il n'y a pas de singularité à l'exposer. Et puis il s'avère qu'une personne qui est dans l'ouvrage, il y a 2 ans, m'a interviewée en me disant « j'aimerais que tu nous parles de cette histoire des études sociales de la finance ». Et notamment avec les 2 vrais fondateurs étaient Fabien Mugnesa et Olivier Gauchot. Mais en fait, moi, j'ai été très tôt associée. Et donc, en fait, moi, je veux avoir un témoignage des fondateurs de cette association. Alors, j'avais un peu l'impression d'être une ancienne combattante et d'être devenue vraiment vieille. Mais de là, finalement, est né un retour réflexif sur cette expérience. Et je pense qu'il est très important finalement d'en témoigner, de le donner comme témoignage. Donc, un témoignage d'une personne qui est active dans cette expérience, mais qui me semble très important finalement à transmettre. Alors le paradoxe de ce début d'association, eh bien, c'est que l'on est en 97, et on est en 97 avec un certain nombre de jeunes qui commencent une thèse autour de la finance avec une posture critique, et de jeunes plutôt familiers des sciences sociales. Or, dans le contexte de 97, eh bien, il y a quelque chose de relativement paradoxal, c'est qu'on est tous conscients du phénomène de financiarisation des sociétés, donc autrement dit que la finance est omniprésente, qu'elle structure nos sociétés, qu'elle imbibe les vies domestiques, les structures, la politique, etc. Mais paradoxalement, alors même que la finance est dans la vie de la société et dans la vie individuelle, elle n'est étudiée que par l'économie et la gestion. Donc en fait, on a cette tension très forte qui est que, finalement, la finance n'est analysée qu'à l'aune des outils de la théorie financière et plus du tout par les autres sciences sociales. Alors, cette situation, elle provient, lorsque je reprends un terme qui était de Jérôme Gauthier, il a appelé de Pax Parsonia, qui était finalement l'idée à partir des années, post-guerre, qui était la séparation entre les objets étudiés par l'économie et les objets étudiés par les sciences sociales. Or, le capital, la finance, était l'objet de la théorie économique. Donc, si je reprends Max Weber, on était dans une rationalité en valeur, sans S, et donc c'était l'objet exclusif de l'économie. Et encore plus la finance, puisqu'en fait, la finance avait quand même servi de modèle à Walras pour fonder son modèle. Donc, résultat, les sciences sociales n'étudiaient plus la finance. Donc, quand on s'est constitué en petits groupes, l'idée a été de s'auto-organiser pour refonder un corpuscule qui aller réétudier la finance avec des outils de sciences sociales. Et donc, le séminaire est né de cela, c'est-à-dire qu'en fait, au tout début, on se réunissait pour travailler sur des textes, notamment des textes publiés aux États-Unis, puisqu'en fait, aux États-Unis, on avait déjà eu un travail qui était le travail de Adler et Adler, publié en 84, où les sociologues américains s'autorisaient à aller dans l'espace financier. Alors, en faisant ce travail-là, évidemment, on est revenu aussi aux anciens. Et le paradoxe, c'était que fin 19e siècle, la finance était étudiée par les sciences sociales. Donc là, j'ai mentionné les travaux de Max Weber. Mais le travail, par exemple, le travail sur les articles sur la bourse de Max Weber n'avait pas été traduit en français. Donc il a fallu attendre Pierre de Larmina pour que cela soit traduit en français. Donc on avait pas accès, pour ceux qui ne parlaient pas français, à ces textes-là. Mais en français, on avait quand même le manuel du spéculateur de Proudhon, qui était présent. Et puis, que ce soit Tarde et Simian, eh bien, avaient fait des travaux, hein, l'un plutôt sur la dynamique spéculative et sur le mouvement mimétique qu'on pouvait observer lors de crises financières. Et si on regarde les travaux de Simian, eh bien, il y avait toute une réflexion autour de l'immobilier, autour du patrimoine, autour du prix de l'immobilier, et qui était somme toute très proche et très utile pour comprendre le phénomène financier. Donc, au final, quand on commence en 1997, c'est plutôt pour combler un vide en sciences sociales, en France, du désintérêt relatif des sciences sociales pour la finance. Et donc l'histoire va ainsi débuter avec ce séminaire donc informel de doctorants, et puis à partir de 1998, un peu plus organisé, avec des réunions qui ont plutôt lieu au CSI, donc à l'École des Mines. Et la particularité de ce séminaire, qui semblerait aujourd'hui quelque chose de presque outrageant, c'est qu'on retrouvait dans ce séminaire des personnes d'obédience disciplinaire tout à fait tranchées, différentes, mais où on parlait ensemble. Donc il y avait Fabien Mignosa qui donc débutait sa thèse avec Calon, qui était plutôt un adepte de la performativité. Vous aviez Olivier Gautcheau qui était plutôt bourdieusien. Sabine Montagne, donc, qui faisait une thèse avec la théorie avec Boyer, qui venait de la théorie de la régulation. Vincent Antonin Lépiné, qui, même s'il faisait sa thèse avec Calon, était plus proche de Boyer, de Latour et de l'acteur réseau. Emiliano Grossman, par la suite, qui était politiste, moi-même, etc. Donc, en fait, on s'est réunis. Et le gros avantage hein, du fait que, finalement, les études sociales n'étaient pas structurées autour de la finance à ce moment-là, c'est que, finalement, on a essayé de voir ce que pouvaient apporter tous ces socles théoriques à la compréhension du phénomène financier, sans refuser... a priori, des éléments venant de la théorie des champs ou des éléments venant de la performativité. Ou, pour moi, qui faisais ma thèse avec André Orléans, des éléments qui viennent des conventions, par exemple, ou de Girard. Donc, de ce séminaire informel a émergé un premier colloque qui a eu lieu en 1999 et qui a amené à la publication d'un numéro spécial, donc en 2000, de Politics, où en fait on retrouve eh bien, les contributions des fondateurs, donc tous les noms que je viens de mentionner. Et puis à la suite de ça, on va avoir aussi un numéro spécial en 2003 dans ACT, donc pour dire qu'on n'était pas lié stricto sensu au courant, je dirais plutôt acteur réseau. Et en 2000, on va créer et institutionnaliser ces études sociales de la finance. Alors, à partir du moment où on l'institutionnalise, eh bien, la particularité étant qu'on est d'origine différente, eh bien, la particularité de cette association est qu'elle n'est attachée à aucune université ni aucune institution. Donc l'idée d'emblée a été qu'il n'était très important pour justement appuyer cette diversité disciplinaire et cette diversité d'écoles que cette association existe hors École des Mines, hors ENS, hors ici EHESS, etc. Par contre, le séminaire a toujours été hébergé par l'une de ces institutions. Donc pendant très longtemps, on était ici, notamment parce qu'il y avait Horacio Ortiz qui était au Laios, et donc on était accueillis par le Laios ici. Donc en fait, on a été à peu près dans... Donc aujourd'hui, le séminaire est au CNAM depuis pas mal d'années, mais il a été à l'École des Mines, il a été aussi à Sciences Po, et il a été pendant très longtemps à... je vais dire PSE, mais c'est Holbach, au centre... Maurice Holbach. Holbach, voilà, c'est ça. Holbach, voilà, j'arrive jamais bien à le dire. Holbach. Voilà. Donc, en fait, ce séminaire existe toujours, j'en fais de la pub, j'en profite pour concurrencer le séminaire ici de POCFIN. Et c'est un séminaire qui a la particularité, depuis 2000, on va dire, de présenter toujours des terrains en finance. C'est-à-dire que le gros souci qu'on avait quand on a commencé ce séminaire, c'est que quand vous parliez finance, eh bien, il fallait déjà exposer votre terrain. Et quand vous le faisiez dans des cénacles habituels, eh bien, le problème, c'est que les gens ne comprenaient rien à un produit dérivé, ne comprenaient absolument rien à la théorie de l'efficience, ne comprenaient mais vraiment strictement rien à ce qu'était un partenariat public-privé quand vous faites du financement avec des montages complexes. Rien à un CDS ou à un CDO. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on commençait pendant une heure et demie à expliquer ceux qui étaient un CDS, un CDO ou une option. Et puis après, l'aspect critique théorique est bien passé à l'acte. Donc dans ce séminaire, comme on était tous, experts d'une certaine façon en finance, eh bien on pouvait passer à l'essentiel et aborder la partie critique. Parce qu'en fait, c'était ça l'important. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris l'objet financier, l'important n'est pas que de le décrire, mais surtout d'apporter une critique qui vienne des sciences sociales. Et cette particularité de séminaire a permis, je dirais, de sauver un certain nombre de doctorants. Alors, si je prends le cas de Horacio, qui avait commencé sa thèse avec Michel de la Pradelle, il y a le problème de Michel de la Pradelle, c'est qu'elle comprenait parfaitement bien ce qu'était un marché d'Aligre, si je reprends le marché d'Aligre. Maintenant, aller sur le marché financier n'était pas, a priori, son champ d'observation habituel. Mais après, elle avait les outils pour le comprendre. D'accord ? Donc, l'idée a vraiment toujours été d'exposer le terrain et après d'en faire une lecture à partir des outils des sciences sociales. Et donc, à partir de ce moment-là, le séminaire est devenu quelque chose qui est essentiel quand on fait l'interdisciplinarité. C'est un passeur entre les disciplines. C'est-à-dire qu'en fait, les gens venaient avec un terrain et nous expliquaient pourquoi ils l'analysaient en s'appuyant à partir de telle ou telle discipline ou telle école. Et donc, on a appris comme ça, et personnellement, j'ai beaucoup appris, plein de concepts différents qui, venant de l'économie, m'étaient étrangers. Mais de la même façon, eh bien, moi, en tant qu'économiste, il y avait certaines fois où je trouvais que les gens étaient un peu légers sur la théorie monétaire. Donc, je leur rappelais ce qu'était la monnaie. Donc, ils pouvaient très bien l'étudier à partir de Zélisère. Je trouve ça très, très bien. Mais après, aussi, comprendre ce qu'avait pu vouloir écrire Friedman ou Patinkin quand il abordait la monnaie. Donc, en fait, le séminaire était vraiment cette occasion de dire « Ok, on a le même objet ». On a différentes théories et disciplines pour l'aborder. Essayons de se comprendre entre nous et faisons preuve de traduction entre disciplines. Et cet ouvrage, ces deux ouvrages, sont issus de ce travail de passeur entre disciplines. C'est-à-dire que l'idée a été qu'on puisse se comprendre et qu'on puisse voir qu'on est observé le même objet avec des outils et des concepts différents. Et donc, c'est ça qui me semble tout à fait essentiel et que je souhaite absolument transmettre et qu'on n'avait alors plus développé dans la version en français, parce qu'en gros, Routledge nous a dit « Bon, votre étude sociale de la finance, c'est bien intéressant, mais nous, on s'en fout. » Donc, on a fait quelque chose de plus conceptuel dans la version anglaise. Mais par contre, dans la version française, je pense que c'était vraiment important pour nous de raconter cette histoire pour apprendre que l'on peut se parler entre disciplines. Et si je prends un exemple, que vous pouvez avoir des adeptes de McKinsey qui parlent avec des adeptes de Bourdieu, par exemple, pour faire simple. Donc, cette histoire a commencé en 98. On est plus de 20 ans après. Et finalement, les deux ouvrages sont l'occasion de nous raconter cette histoire et de montrer que cela fonctionne. Voilà. Alors, point très important, c'est que je pense que l'interdisciplinarité a fonctionné précisément parce qu'on partageait le même objet, la finance. Et ça me semble vraiment important. Alors là, j'ai un peu mis toutes les écoles. Je vais aller un peu vite parce que je vais revenir après. Mais en tout cas, c'est cette expérience qui a nourri les deux ouvrages. Et attention, les ouvrages ne sont pas des collections d'articles qui feraient suite à un colloque. Nous, Marc, Isabelle et moi, avons choisi qui on voulait mettre dans l'ouvrage. C'est-à-dire qu'en fait, on a choisi les personnes qui nous semblaient finalement importante et qui avait su faire ce dialogue-là, voilà, qui avait su jouer le jeu, qui avait su faire l'interdisciplinarité, etc. Bien, donc après cette présentation de cette association, eh bien, je vais commencer par un point qui a fait l'objet d'une critique pour le livre en français, qui était qu'au fond, l'attrait des sciences sociales, c'est aussi leur capacité à décrire et observer. Et donc, ce que je vais proposer d'abord, c'est cette description pour bien signifier qu'on part d'un objet que l'on a observé. C'est-à-dire que ce qui nous unit tous, c'est l'observation d'un objet. Alors, habituellement, quand on aborde la finance, précisément par les théories qui étaient quasi exclusives et qui avaient le monopole de cet objet avant, eh bien, en fait, on l'abordait à travers des lectures qui sont plutôt fonctionnalistes. Donc, quand on aborde la finance en sciences économiques, donc qui est plutôt ma partie, donc quand je fais un cours de finance, eh bien, je vais avoir tendance à l'aborder à travers les trois fonctions macroéconomiques traditionnellement imparties à la finance, à savoir l'investissement, le transfert des risques et le placement d'épargne. Donc, l'approche des sciences économiques est finalement de présupposer des fonctions qu'on attribue à des acteurs, et il s'avère que ces fonctions-là, eh bien, ont largement structuré et façonné les catégories juridiques qui existent aujourd'hui, aussi bien dans l'espace bancaire que dans l'espace financier. Je ne vais pas détailler plus. En sciences de gestion, on a aussi cette lecture fonctionnaliste, mais je dirais, on ne va pas chercher à comprendre le fonctionnement global du système, mais plutôt essayer de comprendre la façon dont opèrent les organisations. Donc notamment, eh bien, avec une segmentation forte de la finance, suivant celle qui opère pour le marché ou pour celle qui opère pour les entreprises. Et après, à l'intérieur de ces catégories, en gestion, eh bien, on va retrouver, si je prends la finance d'entreprise, ceux qui travaillent, qui ont pour fonction la trésorerie, ceux qui ont pour fonction la couverture des risques, etc., sans s'intéresser, comme les économistes, à la structuration globale du système. Alors, quand on aborde par les sciences sociales, eh bien, assez vite, on se rend compte que ces classifications construites a priori, mais qui sont quand même utiles. Hein. Je pense que l'économie a ceci d'important, de rappeler aux acteurs ce à quoi ils servent dans le système global de l'économie. Mais malgré tout, quand on va aller observer, eh bien, on a un peu du mal à retrouver d'emblée ces fonctions-là. Et finalement, elles ne sont pas suffisantes pour véritablement comprendre et discerner les acteurs que l'on va observer et aborder l'ensemble des facettes de la finance. Alors pourquoi ? Eh bien, par exemple, parce que si je prends plutôt la question de la différenciation que l'on a en économie entre intermédiation bancaire et intermédiation financière, eh bien, quand on va observer certains objets, comme les LBO, eh bien, on voit que c'est d'emblée un mélange action-crédit. Donc ça mélange l'intermédiation financière et l'intermédiation bancaire. De la même façon, eh bien, quand on veut comprendre le placement de l'épargne, assez vite, on va se dire, mais mince, j'ai plein d'acteurs et plein de délégations. Donc, qui j'observe pour comprendre la fonction de placement de l'épargne ? Autre souci, eh bien, c'est qu'il y a des pans entiers qui ne sont pratiquement pas étudiés, et notamment, c'est tout ce qui a trait à la sphère personnelle, domestique. L'usage de l'argent domestique n'est absolument pas considéré. Donc, évidemment, on va retrouver tout ce qui est informel, mais aussi, je dirais, la question de l'exclusion sociale, l'exclusion financière ou l'exclusion bancaire a très tardivement été incorporée dans ce spectre d'analyse, précisément parce que on ne le lit pas à l'aune des catégories préexistantes. Alors, pour débuter ce livre, eh bien, on a donc le second livre, hein, donc The Making of Finance, eh bien, on a essayé de faire des cartes pour essayer de clarifier les choses et pouvoir dire, eh bien, moi, observateur de la finance, quand je suis allé observer la finance, j'ai observé ça. D'accord ? Juste avoir une cartographie de là où on est. Donc, la première façon de décrire la finance, de la dévoiler, en venant de l'économie, ce qui est mon cas, eh bien, est de revenir à ce qu'on attribue comme fonction au marché financier, au monde de la finance, à savoir produire de l'information, décider et finalement acheter ou vendre sur un marché. Donc si vous êtes intéressé par les producteurs d'informations qui participent à la production d'informations, eh bien vous allez aller voir, alors je ne sais pas si je fais ça, voilà c'est bon, si je fais ça on le voit un petit peu. Donc ici, il va falloir voir ceux qui produisent de l'information financière, à savoir les analystes financiers, les agences de notation, les agences, les médias. Si vous voulez maintenant, par exemple, ce qui a été plutôt mon cas quand j'ai commencé, si je reviens donc il y a 20 ans en arrière, quand j'ai commencé ma thèse, eh bien moi, ce qui m'intéressait, c'était la décision financière. Comment comprendre comment un spéculateur, un trader, achetait et vendait des actions. Eh bien, en fait, ce qu'il fallait que j'aille voir, c'était des traders, ce que j'ai fait. Je suis allée en salle de marché observer le fonctionnement de traders. Par la suite, comme c'était toujours l'achat et la vente de titres qui m'intéressaient, bien, je me suis rendu compte que les traders, ce n'était pas suffisant, mais qu'il fallait voir d'autres entités, notamment les gérants de SICAV ou de FCP. Et donc, c'est comme ça que je suis allée dans le monde de la gestion d'actifs. Mais parce que ce qui m'intéressait, c'était la décision. Et puis, si vous êtes intéressé par le marché financier, eh bien, vous allez découvrir assez rapidement que le marché n'a rien à voir avec ce qui est modélisé par Walras, même si ce qui est très intéressant, c'est que Walras est allé observer le fonctionnement du marché parisien, boursier, pour en inférer son modèle. Donc on a quelque chose de réflexif à chaque fois. Mais si aujourd'hui vous voulez voir un marché, eh bien il va falloir que vous alliez voir des algorithmes. D'accord ? Donc autrement dit, quand on veut observer concrètement ce qu'est un marché financier, eh bien il va falloir faire ce qu'a fait Marc Langlais par la suite, voir qu'est-ce que c'est qu'un dark pool, donc autrement dit, comment concrètement on achète et on vend des titres en passant par des interfaces sur Internet. Alors comme on a commencé notre travail en 98, quand vous n'aviez pas que des algorithmes, eh bien par exemple si on prend le travail de Fabien Mignesa, eh bien il a pu aller voir véritablement ce qu'était un opérateur de marché, puisqu'à l'époque, le Palais Brongniart n'était pas qu'une coquille vide et on pouvait encore l'observer. Mais par exemple, pour certains produits dérivés, il faut aller voir ce qu'on appelle des brokers, donc des courtiers, et c'est eux qui font le marché. Donc, suivant ce que vous voulez observer dans la finance, vous n'allez pas aller observer les mêmes entités. Et donc, cette carte est pour vous dire, si vous voulez voir le marché, allez voir la bonne chose. Alors, en dessous, eh bien, il y a quelque chose qu'on oublie, et que moi-même, j'avais un peu oublié quand j'avais fait ce graphe-là, c'est que la finance est aussi plein de fonctions support qui sont très intéressantes à étudier, que ce soit toutes les activités de comptabilité, de contrôle des risques ou de déontologie, de contrôle interne, etc. Et que ces entités-là vont agir sur tous les acteurs ici mentionnés. Donc ça, première entrée, attention, quand vous voulez observer, allez au bon endroit et vous trompez pas, parce que sinon c'est un peu... si vous voulez voir le fonctionnement du marché et que vous allez voir... finalement, je ne sais pas, une agence de notation, bah vous verrez qu'une partie, pas tout. La deuxième, finalement, cartographie, alors celle-là, elle part de la segmentation économique entre les acteurs qui sont plutôt intermédiation bancaire, intermédiation financière. Donc, je vais être un peu plus rapide parce qu'elle n'est pas nécessairement au cœur de mon propos pour la suite. Mais c'est juste de signaler que si vous êtes intéressé par le fonctionnement du crédit, eh bien, il faudra plutôt aller voir des banques ou des banques centrales. Donc, si vous voulez plutôt vous intéresser à la monnaie, entendu telle que définie par les économistes. Si vous voulez être que sur l'intermédiation de marché, eh bien là, vous avez les autres acteurs qui sont ici. Et puis, ayez en tête qu'entre, on a plein de choses. Et qu'entre, on va avoir des choses qui sont un peu compliquées à expliquer en s'appuyant que sur des logiques de crédit ou que sur des logiques actions, parce qu'elles les entremêlent. Enfin, si vous vous intéressez au placement de l'épargne, eh bien, le placement de l'épargne est un monde relativement complexe. Et dans ce monde-là, il va falloir voir d'où vient l'épargne, qui s'occupe de la placer et où on la place. Et dans ce petit graphe, hein, on essaye de montrer que l'épargne peut venir des individus ou des États et qu'il est très intéressant d'étudier ce qui se passe, par exemple, dans le placement de l'épargne venant des fonds souverains, donc qui sont des entités publiques avec de l'argent qui vient de l'État, notamment pour comprendre des formes de durabilité de la finance. Et après, eh bien, vous avez soit l'épargne volontaire, soit l'épargne réglementée. Et par exemple, dans l'épargne volontaire, c'est quand même intéressant de distinguer les classes moyennes, l'épargne des classes moyennes, de l'épargne des classes plus aisées. Et ce n'est pas la même chose si vous suivez une banque privée qui est réservée à plutôt des personnes fortunées que à de l'épargne collective, telle que SICAV, FCP, et les mécanismes ne sont pas les mêmes derrière. Donc, ce graphique-là, il est pour mentionner qu'on va avoir cette diversité et qu'au fond, vous pouvez très bien observer... moi, j'ai pu accompagner... un gérant d'une banque privée, et j'ai vu une partie de la gestion d'actifs, Par contre, quand j'avais fait un questionnaire plus large auprès de gérants de SICAV, eh bien, j'en avais vu une autre. Et que l'intérêt de voir les liens entre eux et ce qui les rapproche. Autre dimension qui est très importante, c'est la flèche rouge ici, c'est qu'on a toutes des chaînes de délégation à l'intérieur du placement d'épargne et qui vont rendre les mécanismes de suivi, de contrôle, du due diligences, donc autrement dit, qu'est-ce qu'on met dans les contrats pour suivre cette délégation, relativement complexe, mais que ces contrats-là sont très intéressants à suivre, et donc notamment, par exemple, de voir comment une caisse de retraite peut déléguer sa gestion à un hedge fund est quelque chose de très important. Alors, dernier élément, c'est que ces entités ne vont pas intervenir dans les mêmes espaces, et que c'est très intéressant d'avoir en tête que dans le monde de la finance, vous avez des mondes qui sont totalement réglementés, donc c'est tout ce qui est ici, et que, par exemple, une SICAV classique ne connaîtra que le monde réglementé. Vous avez des choses qui sont absolument pas réglementées, ou qu'on essaye un peu de réglementer, donc si vous voulez travailler sur des choses très peu réglementées, bah, par exemple, c'est bien d'aller voir comment fonctionne un hedge fund. Et puis, vous avez dans un secteur qui n'est pas passent pas par le marché, qui sont de tout le secteur du private equity, où on a aussi d'autres types de logiques. Donc, ce n'est pas la même chose de travailler sur des actions ou des obligations de grande capitalisation, très réglementées, des contrats tout à fait ad hoc pour des risques très spécifiques, et puis de travailler sur des PME et comment vous avez une transmission de PME avec un rachat derrière par un fonds de pension américain. D'accord ? Donc, vous avez toute cette diversité là en finance. Donc ça a été la première étape, donc qui est la nouveauté de cet ouvrage, essayer de dire, vous aider, si vous voulez aller faire des terrains, en vous disant, voilà, on vous donne notre cartographie, après choisissez où vous voulez aller, mais et vous avez le droit d'y aller, et nous on y est allé, enfin pas tous ceux qui sont dans le livre sont allés dans tous les endroits que j'ai mentionnés, donc vous avez le droit d'y aller, parce que quand en 98 on a commencé, à faire ces enquêtes de terrain, beaucoup de gens nous disaient « Non, mais la finance, on ne peut pas l'observer. » Si, la finance existe dans des endroits et on peut l'observer. Et donc, il faut y aller. Et finalement, nous tous, quelles que soient nos origines, on a pu l'observer. Alors, cette observation, par contre, quels que soient les endroits où vous voulez aller voir, elle peut se faire à différentes échelles. Et donc ça sera le troisième point de mon intervention, c'est de signaler que et alors ceci était déjà présent dans le premier tome de La Fabrique de la Finance, et je pense que c'est quelque chose qu'on a structuré un peu différemment dans le deuxième, et le deuxième me semble beaucoup plus abouti, et de dire qu'on va avoir des échelles, et ces échelles, pour une large part, vont être dictées par les écoles disciplinaires d'où l'on vient. Alors, ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que les économistes et les gestionnaires ont eux-mêmes des échelles. Et c'est pour ça qu'en fait, quand je parle de sciences sociales, pour nous, enfin moi, mais je pense aussi Marc et Isabelle, eh bien l'idée n'a jamais été de dire on fait que la sociologie et pas la gestion et l'économie. Alors pour une raison toute simple, c'est qu'on est pour deux gestionnaires et pour moi économiste. Donc l'idée a toujours été de ne pas exclure des sciences et plutôt de dire que chaque science avait un regard. Donc là, ce que je vais commencer par mentionner, c'est, alors j'ai mis des noms, mais les retenez pas, mais j'avais des noms de Nanterrois en tête, c'est pas très grave, mais c'était plus pour montrer les personnes économistes qu'on pouvait retrouver. Si on arrive par l'économie a cette diversité d'échelles. On peut travailler sur le prix des actifs. Donc le prix des actifs, on va dire, c'est l'échelle la plus petite. J'y reviendrai après quand je parlerai de la suite, mais on peut dire que c'est proche, par exemple, de ce que vont faire McKinsey quand on regarde un algorithme, par exemple. D'accord ? Donc on a une entrée, si je prends un terme qui est plus en social, par un dispositif. Un dispositif qui est ici le prix. On peut avoir une entrée qui se fait à partir des agents. Ça peut être des agents représentatifs, hein, c'est toute la microéconomie. Ça peut être aussi, plus récemment, par tout le courant de la finance comportementale. Et si je reviens à quelqu'un qui m'a formé, c'est l'entrée d'André Orléans. Donc on peut avoir une entrée qui est comment se comporte un individu et ce qu'il va falloir observer, c'est un individu. On peut avoir aussi une entrée qui se fasse à une échelle plus globale, au niveau des marchés et de la dynamique des marchés. Et on l'a avec les travaux de Minsky ou les travaux de macroéconomie financière. D'accord ? Donc on voit qu'en économie, on a ces différentes échelles qui se complètent évidemment. Au niveau de l'économie et beaucoup plus de la gestion, on peut avoir des entrées au niveau des organisations. Et je prends notamment le travail de Laurence Lelhomme, qui est plutôt au travail des banques. Mais vous pouvez aussi avoir des gérants, des analystes, etc. Donc finalement, cette diversité d'angles pour aborder un propos est quelque chose qu'on a en économie, on a aussi en gestion, mais qu'on a encore plus en sciences sociales. Et le gros avantage des sciences sociales, c'est qu'on peut étudier tout ce que les économistes et les gestionnaires étudient, plus d'autres. Alors, si je me place par rapport à l'économie, plus que la gestion, parce que je connais mieux l'économie, eh bien, en fait, la particularité de l'économie, et je reprends une définition que j'aime beaucoup de Benetti et Cartelier, eh bien, ils avaient été de dire que l'économiste étudie les grandeurs. Donc, en fait, pour qu'un économiste commence à étudier quelque chose, il faut qu'on ait une donnée quantitative. Ça peut être un prix, ça peut être une utilité ou un profit, ça peut être du PIB. Mais en tout cas, on a une grandeur et après, on fait une théorie. Le gros avantage des sciences sociales, c'est qu'on peut étudier ces grandeurs-là, mais on peut aller plus loin. On va pouvoir étudier du narratif, on va pouvoir étudier un algorithme, on va pouvoir étudier un visuel. Si je prends mon cas, il m'est arrivé de travailler sur les prix des actifs. J'ai aucun souci à ça. J'ai aussi travaillé sur la dynamique du CAC 40, donc plutôt au niveau des marchés. J'ai aucun souci à faire ça, mais je m'autorise aussi à faire d'autres choses. Donc j'ai pu travailler sur, des enquêtes, des interviews, etc. Et donc, les entrées complètes les sciences sociales par rapport à l'économie, eh bien, c'est de travailler donc plutôt sur les règles, sur les techniques de communication, sur les contrats, si vous êtes plutôt à aller vers le droit. Vous pouvez aussi travailler sur le travail, sur les professions, sur la formation. Si vous allez plus du côté de l'anthropologie, vous allez aborder les imaginaires, la culture, les symboles. Et puis, du côté du politique, vous allez pouvoir aller vers l'idéologie, les concepts de domination ou autre. Donc, vous enrichissez les angles. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail de Bernard Lahire, eh bien, en fait, l'idée, c'est que ces échelles se complètent. C'est-à-dire que si on veut travailler en finance, eh bien, finalement, on va conjuguer toutes ces échelles sans considérer qu'une est supérieure à l'autre, mais plutôt admettre qu'une complétera l'autre. Et c'est ça qu'on a fait dans le séminaire études sociales de la finance. C'est au fond de dire que à chacun, quand vous observez, évidemment, vous ne pouvez pas observer toute la finance. Chacun va observer un petit segment. Mais l'échelle qu'il étudie participe de la compréhension globale. Et si moi, aujourd'hui, je peux être là et vous faire ce séminaire, c'est parce qu'au fond, j'ai été dans ces différents séminaires et je me suis enrichie de toutes ces observations. D'accord ? Je suis jamais allée... j'ai pas travaillé sur le partenariat public-privé. C'est-à-dire que j'ai été rapportrice d'une thèse dessus, mais j'avais aussi entendu des personnes le présenter en séminaire, en l'occurrence Géry Desfontaines, qui est dans l'ouvrage. Et voilà, je peux expliquer ce qu'est un partenariat public-privé concrètement. C'est-à-dire que c'est des cartons de contrat. Voilà, c'est ça concrètement. Et j'ai pu en voir pour voir la forme que ça prenait. De la même façon, quand... vous avez eu, ça c'est aussi une thèse, mais il est aussi venu à SSFA. Quand vous avez quelqu'un qui vient plutôt de l'anthropologie et de la psychanalyse et qui vous parle de l'argent en vous disant l'argent c'est caca, c'est un truc que j'avais jamais totalement saisi de l'économie, mais quand on m'apporte une lecture venant de Freud sur le rapport à l'argent, bah, c'est un truc, même si je n'irai pas vers ça, mais finalement... ça m'ouvre des perspectives sur le tabou de l'argent, sur la libido, sur d'autres choses que je ne fais pas aller vers là, mais ça m'intéresse. Voilà, ça reste dans mon espace et je me dis, tiens, les gens l'abordent différemment. Et peut-être qu'ils ont raison, et peut-être, pour reprendre une discussion, il s'avère que hier, je déjeunais à Paris 1 avec l'équipe des financiers de Paris 1, notamment Christian de Boissieu, et donc je disais que je pensais que c'était très important de faire commencer un cours sur la finance et l'éthique que je fais à Paris 1, en racontant que vous avez plein de financiers qui ont des burn-out et qui viennent fondamentalement d'un rapport complexe qu'ils ont eux-mêmes à l'argent. Et à ce titre-là, Freud peut être utile pour signaler ou prévenir en disant que c'est tout à fait normal d'avoir des soucis avec l'argent. Voilà. Donc, ces séminaires ont participé finalement de cette ouverture d'esprit. Alors, plus concrètement, qu'est-ce qui nous a semblé pertinent donc dans The Making of Finance comme échelle d'observation, donc on retrouve aussi dans la fabrique de la finance, c'est de distinguer la première échelle qui sont les techniques, donc des personnes qui vont plutôt aborder la finance en termes de dispositifs. Donc soit regarder, donc, par exemple, ce que peut faire Christian, hein, les modèles de risques qui sont retenus, de modélisation des risques, de voir quelles sont derrière les théories que vous avez par rapport aux risques. Vous pouvez aussi réfléchir à comment vous, quel est le modèle permettant de former un prix. Vous pouvez très bien regarder comment on code à l'intérieur d'un algorithme. Vous pouvez regarder un contrat financier, qu'est-ce que c'est qu'un contrat ? Qu'est-ce que c'est qu'un ETF ? Qu'est-ce que c'est qu'un produit dérivé ? Mais vous pouvez aussi, si je reprends les travaux de F. Capello, regarder ce qu'est une règle comptable. Tout ça, on est au registre des techniques. D'accord. Et ils ont raison de le faire, mais d'autres vont choisir d'autres choses. Vous avez aussi la possibilité de faire, donc, si je reprends un technique, c'est micro, après vous avez le niveau mezzo et vous avez le niveau macro. Donc au niveau mezzo, on va avoir des gens qui vont plutôt vouloir comprendre comment fonctionne une organisation. Donc leur angle d'attaque, c'est qu'est-ce que c'est qu'une société de gestion, si je prends mon cas. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds private equity ? Qu'est-ce que c'est que Euronext ? Qu'est-ce que c'est qu'un dark pool ? Qu'est-ce que c'est qu'une agence de notation ? Qu'est-ce que c'est qu'une banque ? D'accord ? Donc vous allez aborder par l'objet organisation. Et puis vous en avez d'autres qui vont être à un niveau encore au-dessus, qui, pour étudier les institutions. Et notamment comprendre comment... Alors, vous allez me dire, ah mais quand même, finalement, ici, il y a réglementation, mais là, déjà, il y a contrat et règles. Alors, la différence, c'est qu'ici, vous étudiez une règle ou une loi, alors que là, ce qui va vous intéresser, c'est la production. Comment on produit des lois ? Comment on produit une directive ? Comment le politique peut se faire capturer par des lobbies ? D'accord ? Donc, on ne regarde pas, finalement, l'impact d'une loi, qui est une technique qu'on regarde, mais plutôt, en amont, comment une loi se construit. Vous pouvez aussi regarder tout ce qui est l'éducation financière. Et enfin, vous pouvez aussi regarder ce que sont les institutions du capitalisme. Donc plus dans une tradition... puisqu'après, j'ai été à Nanterre, donc j'ai rejoint l'équipe d'Aglietta et Boyer. Donc plutôt dans une perspective de structure, comment la société se structure, et notamment le rôle des fonds de retraite, de la dette souveraine, etc. Donc voilà pour les échelles. Et cette entrée me semble aussi très importante à transmettre. Voilà, pour dire que vous pouvez aborder la finance à travers tous ces éléments-là. Une fois que vous avez vu votre carte, choisi votre échelle d'observation, eh bien, en fait, les sciences sociales vont aussi apporter une dimension critique. Je n'ai pas l'heure, mais je veux bien qu'on me fascine si, ça me, si, si je dépasse. Si, voilà. 10 minutes, parfait. Je suis dans les temps. Ça va ? Parfait. Donc, dernière dimension, c'est la particularité des sciences sociales, mais en fait, de facto, qu'on a aussi en économie, mais l'économie se considère comme une science neutre, alors même qu'elle est portée par une idéologie. Mais quand on va observer, quand on a choisi notre angle, il est illusoire de croire qu'on va faire que décrire. Il faut aussi le faire pour dans une certaine perspective, et c'est l'objet de cette dernière dimension, qui est de dire on va porter une critique. Portée et critique n'étant pas entendu comme je suis critique de cinéma et je dois descendre l'élément, c'est pas ça. C'est véritablement, à travers les sciences sociales, qu'est-ce que je construis ? D'accord ? Là, c'est une critique constructive, c'est pas juste une déconstruction, c'est pour aller vers quelque chose. Et pour cela, eh bien, on a repris la grille proposée par Hague et Lemieux, en l'appliquant à notre contexte, et en disant qu'au fond, quand on regarde les travaux qui avaient pu être proposés et présentés au sein du séminaire études sociales de la finance, on pouvait voir trois formes de critiques. La première était finalement une critique du modèle dominant, à savoir, même si j'ai été très rapidement, la théorie de la finance classique. Et fondamentalement, eh bien, dans cette attaque, on va avoir une attaque qui est, donc les deux piliers que j'avais pu vous dire, la rationalité économique et le statut de la valeur fondamentale, c'est pour ça que je l'ai rappelé un peu au début, et puis la question de l'efficience informationnelle. D'accord ? Donc, deux grandes attaques autour de ce socle qui vient de la théorie. Donc, je vais vous décrire, juste après, je vais revenir sur ces différents éléments, mais juste mentionner les deux autres critiques. Donc, la deuxième critique, c'est une critique où on va essayer d'aborder ce qu'est l'industrie financière. Qu'est-ce que c'est que sa dynamique? Et enfin, la dernière critique, angle va être penser la finance à un niveau plus, structuraliste, comme plus marxiste, si vous voulez, penser la finance comme un espace de domination ou en termes de régime d'accumulation. D'accord ? Donc vous allez avoir des gens qui vont aborder le terrain de la finance pour derrière critiquer la théorie classique, financière classique. D'autres qui vont plutôt le faire pour dire, ben voilà, c'est une industrie qui est structurée avec des organisations, avec des niches de pouvoir, etc. Et puis une dernière dimension qui est plus une critique politique de la finance et derrière travailler sur sa domination. Donc sur la première critique, donc la question de la valeur et du prix, eh bien finalement on va avoir deux grands types d'approches. Une qui va questionner finalement la théorisation, on va dire plutôt microéconomique, en étant somme toute assez proche de la théorie économique ou de la théorie financière, et juste de montrer que bien finalement la réalité diffère de la théorie. D'accord ? Donc premier socle, ça va être de dire, eh bien au fond, ce qu'on observe nous n'est pas la même chose que ce que nous prédit ou nous propose le modèle. Et que le problème, c'est qu'à partir du moment où ce n'est pas pareil, ça a quand même des effets, cette différence, et cela impliquerait d'autres types de règles, d'autres façons d'aborder la finance. Donc autrement dit, la focale, je dirais, est très proche de la théorie économique et derrière, hein, pour dévoiler ses défaillances. Voilà, donc historiquement, c'était notamment le travail de Fabien Munieza autour de montrer que le marché financier ne fonctionnait absolument pas comme un robot valorisien. Et dans notre... donc Fabien n'a pas souhaité, pour plein de bonnes et mauvaises raisons, ne pas être dans le livre, mais donc il n'y est pas, même si on lui a proposé. Et donc dans l'ouvrage, même s'il n'y est pas, on retrouve, je dirais, sa pensée, notamment dans les travaux de Valérie Revet, qui travaille sur un marché particulier, qui est un marché à Londres, qui s'appelle Alternative Market. Et puis, sur les travaux de deux historiens, Lanio Imone est un sociologue, Angelo Riva est un historien de l'économie, mais Lanio Imone, historiquement, avait plutôt travaillé sur l'histoire de la bourse, dans une perspective sociologique, mais malgré tout, avec une dimension forte historique. Et donc, dans leur travail, bien précisément, ils vont montrer que le fonctionnement du marché parisien au XIXe siècle n'a rien à voir avec ce que propose la théorie. Même chose sur l'efficience, donc montrer que, eh bien, finalement, les outils utilisés par les acteurs n'ont rien à voir avec la réalité, donc on va dire plutôt notamment le travail de Pierre de Larmina, ou que, eh bien, il faudrait dépasser la modélisation, la façon dont on aborde les risques, et que fondamentalement, eh bien, la façon dont on aborde les risques, je dirais, façonne les mentalités, et qu'on a un travail de déconstruction à faire, donc plutôt le travail de Christian. Et puis, de Franck Jovanovic, de montrer comment, eh bien, finalement, les thèses de l'efficience sont mobilisées dans la jurisprudence américaine, mais sont utilisées de façon tout à fait diverse, et pas du tout comme le pensent les théoriciens initiaux de l'efficience. Alors, seconde dimension, donc toujours où on reste quand même proche de la théorie financière, et on essaye de finalement la dépasser, eh bien, c'est le débat autour de est-ce qu'il existe ou non une valeur fondamentale. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais la valeur fondamentale est très importante dans la construction économique, puisqu'elle traduit le fait qu'il existerait une valeur objective à un titre financier. Et donc là, que ce soit le travail de Isabelle Chambaud ou d'Horacio Artis, est de montrer que... fondamentalement, et les acteurs en ont tout à fait conscience, la valeur fondamentale n'existe pas et que la valeur fondamentale est une construction sociale. D'accord ? Donc soit en se basant sur le travail des analystes financiers, soit en se basant sur comment un courtier va vendre un produit financier en adaptant son discours en fonction du client qu'il a. Et donc, s'il croit à la valeur fondamentale, il prendra la valeur fondamentale. S'il croit à autre chose, il fera un autre discours. Alors, sur les deux autres critiques... eh bien, en fait, là, je dirais que c'est beaucoup plus science sociale, à savoir qu'on va retrouver des choses que l'on retrouve dans, traditionnellement, quand un sociologue, principalement, aborde, décrit un secteur d'activité ou une entreprise. Autrement dit, de dire que, eh bien, finalement, l'industrie financière, vous avez des hommes, vous avez des professions, vous avez des organes qui forment les gens, vous avez des réseaux, d'accord, comme partout ailleurs. Donc, dans cette deuxième perspective, en fait, finalement, c'est qu'on prend des outils, des concepts qui sont archi connus en sciences sociales et on les met dans la finance pour montrer que la finance est une industrie comme une autre. Donc, par exemple, même si je ne l'ai pas mis, ça peut être le travail de Marnix Dressen sur la formation professionnelle. Donc, on est en sociologie des professions de façon tout à fait classique. Dernière dimension, alors je vais quand même mentionner par exemple le travail aussi de Élise Penalva, c'est comment l'investissement socialement responsable s'est structuré en France et de voir les réseaux qui se sont constitués. Et donc, il y a assez longtemps, Élise avait fait un terrain très intéressant dans le nord de la France pour voir le rôle de la CGT, de la CFDT dans la construction de la norme ISR, de ce qui est devenu l'ISR. Dernière dimension, eh bien, là, on est dans un autre registre. C'est donc un régime d'idée que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est l'apparition d'un nouveau régime d'accumulation, nouvelle forme de capitalisme, avec finalement des structures particulières et des structures qui modifient un certain nombre de compromis institutionnels et qui vont exercer des formes de domination politique. Et donc là, par exemple, je remets les travaux de Sabine Montagne, puisqu'elle y est, donc de voir le rôle fondamental des fonds de retraite dans cette dynamique. Bon, des travaux qui existent par ailleurs, ceux de Benjamin Lemoine sur comment l'État s'est engagé dans cette financiarisation. Ou, alors, Michel Aglietta a changé de statut entre les deux livres, puisque dans le premier livre, alors dans le premier livre, initialement, il devait être en préface. Mais comme il déconstruisait totalement le livre, je l'ai mis en postface. Et puis finalement, dans le livre anglais, je me suis dit que c'était très important de le mettre justement comme illustration de cette dynamique. Et dans l'article, eh bien, dans le chapitre, eh bien, Aglietta montre qu'au fond, la séparation entre monnaie et finance est justement qu'une séparation totalement structurelle et qui vient de rapports de pouvoir. Et donc, de voir que si on aborde la finance, à un moment ou à un autre, il faut aussi étudier la monnaie. Et l'État a fait cette démarcation un jour ou l'autre entre la finance et la monnaie. Et je pense que ce chapitre est très important dès lors qu'on a en tête cette dynamique structuraliste. Voilà. Donc, là, vous avez l'architecture globale du livre, donc avec les échelles que vous retrouvez. Donc, soit on aborde par les techniques, les organisations, les institutions. Et puis après, finalement, qu'est-ce qu'on veut faire une fois qu'on observe ? Est-ce qu'on veut porter une critique au regard de la théorie financière ? Est-ce qu'on veut voir comment se structure une industrie ? Ou est-ce que, finalement, on veut penser un nouveau régime d'accumulation ? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit... Alors, évidemment, vous voyez ici, la critique de la théorie économique se fait plus au niveau... de la théorie économique se fait plus avec une échelle qui est des techniques ou des organisations, un petit peu moins au niveau des institutions. Et de la même façon, eh bien... Le nouveau régime d'accumulation, on est encore dans une logique plutôt de structure, eh bien, se fait plus en observant les institutions. Donc on a quand même quelque chose qui est cohérent entre la critique que l'on veut porter et l'échelle. Mais il n'en reste pas moins qu'on a la possibilité d'étudier le nouveau régime d'accumulation, si je reprends le travail de F. Capello, en regardant une règle comptable. D'accord ? Et en suivant une règle comptable, on peut avoir une lecture en termes de domination. De la même façon, eh bien, Frank Jovanovic veut aborder la critique de la théorie financière et il le fait en observant la jurisprudence. Donc plutôt quelque chose qui vient de l'institution. Donc on a des choses où on a une cohérence en termes d'échelle et de critique, mais évidemment, on a aussi cette possibilité de déroger à cette cohérence dès lors que finalement notre analyse est, je dirais, très précise, hein, parce que je pense qu'au niveau... aussi bien, par exemple, de David Martin ou F. Capello, c'est leur finesse d'analyse des dispositifs qui leur permet, évidemment, de remonter à des aspects plus macrosociaux dans leur critique. Voilà, alors pour conclure, donc, évidemment, on a une richesse qui vient de l'interdisciplinarité pour comprendre le phénomène financier. L'objectif du livre et de mon séminaire était vraiment de démontrer cette richesse. De dire que les marchés financiers, évidemment, ne sont pas que des vecteurs, ne sont pas que des moments construits sur les prix, mais résultent d'une construction sociale qui vont impliquer des personnes, des techniques, des institutions, des organisations. Alors, dans un travail que j'ai réalisé avec Stéphanie Serve, Laurence Yalom et Jézabel Coupé-Souberan, donc, qui a été publié dans l'Institut Veblen en décembre 2018, eh bien, on a fait une enquête sur comment était enseignée la finance 10 ans après la crise. Et le gros constat que nous faisons, c'est qu'évidemment, eh bien, tout ce que je viens de vous dire là eh bien, ne transparaît absolument pas dans l'enseignement français de la finance. Et mon désir, et notamment d'être là et finalement d'être beaucoup plus proactive dans la dissémination, c'est précisément de lutter contre ça. Et qu'effectivement, je pense que la seule façon de changer les choses, c'est d'arriver à avoir des manuels de la finance qui transmettent tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que là, les deux livres que l'on a, c'est quand même des livres qui sont plutôt destinés au grand public, mais plutôt à des gens qui s'intéressent à la finance, mais qui ne sont pas des manuels. Et si on veut éviter que tous les gens croient au CAPM bêtement, eh bien, il faut qu'on explique ce qu'est le vrai métier d'un gérant et comment pour de vrai il fonctionne, et qu'il fonctionne à des années-lumière du CAPM, mais que pour autant, il y a des cohérences dans leur action. Et donc, finalement, ce travail d'intégration de la finance comme objet social est possible de partout, y compris dans les sciences économiques ou dans la théorie financière. Et je pense que c'est très important qu'on le fasse. Voilà, j'ai fini. Merci.